Une nature, cette promenade écologique et sonore à la découverte du territoire marseillais. Dans le prolongement de son livre « Marseille, énergie et frustration » sorti aux éditions Autrement en mai 2006, Baptiste Lanastez invite à une série de promenades sur la commune de Marseille, entre ville et nature.
Nous allons aujourd'hui poursuivre l'exploration écologique du territoire marseillais en compagnie de l'architecte Thierry Durousseau. La promenade aujourd'hui n'a pas lieu dans l'espace, comme les fois précédentes, mais plutôt dans le temps. Thierry, puisqu'on va revenir un petit peu sur la présence des éléments naturels à Marseille à travers le XXe siècle et même peut-être avant. Alors, la première question que je voudrais vous poser, on est donc dans une ville qui compte 100 km² d'espace naturel sur 240 km². C'est un cas assez unique, surtout pour une métropole presque millionnaire. Comment ça se fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec plus d'un tiers de la ville en espace naturel? Ça ne s'est pas fait naturellement, si j'ose dire.
Alors effectivement, Marseille a été soucieuse de ses espaces naturels, oui, puisque s'il s'agit bien de ça, de naturel et ses paysages, assez tôt, dans la mesure où assez tôt, elle a produit des plans d'urbanisme, elle a produit des plans qui essayaient de régler à terme l'usage et l'occupation de ces territoires. Parmi les premiers d'entre eux, ceux de Gréber, dans les années 20, terminé dans les années 30, qui est géographe, tu vois, qui a fondé l'école française de géographie, célèbre à travers le monde, et qui, comme tout un chacun arrivant sur Marseille, s'étonne et s'éblouit de cette lumière éclatante, s'éblouit de ces rochers qui, à l'époque, ne devaient pas si blancs qu'ils nous apparaissent aujourd'hui, mais a décidé de protéger une part très importante du territoire marseillais, pour partie parce qu'ils étaient difficilement accessibles, difficilement urbanisables aussi, mais aussi parce qu'ils constituaient vraiment l'écrin de la grande cuvette qu'on peut voir quand on arrive depuis la mer, quelque chose d'assez plat et entouré de collines qui peuvent être relativement hautes, et surtout qui étaient très boisées à l'époque. C'est une chose qui changera dans la deuxième partie du XXe siècle. Il imagine même, dès cette époque-là, d'installer des studios de cinéma. C'est-à-dire qu'il imagine déjà, bien que ça se fasse, il y a déjà les studios de Sainte-Marthe qui soient là, mais c'est quelque chose de récurrent, la capacité d'avoir de la lumière toute l'année, une très belle lumière, la capacité de pouvoir sortir des caméras, aurait dit Godard, et faire des films en couleur, et ça était encore sur le noir et blanc, fait que le site va être à la fois quelque chose d'admiré et quelque chose de protégé. Pour ce qui est de son état et de sa difficulté d'y installer des activités, alors là, il faut remonter bien plus tôt, disons au moins un siècle plus tôt, à l'époque où de Montrichet, l'ingénieur de Montrichet, donc un de ces grands ingénieurs post-napoléoniens, enfin, formés à l'école polytechnique, issus des Lumières, vont amener l'eau à Marseille depuis la Durance, à la suite d'une énième épidémie de choléra qui va encore décimer la ville et qui donc va faire un canal qui va suivre une ligne quasi d'iso altitude qui va partir donc du nord de Marseille et va aller jusqu'au Goude. Donc quelque chose qui suit le piémont de l'ensemble de ces collines et qui va réactiver au piémont de ces collines l'installation de bastides tout au long du XIXe siècle, de bastides qui ne sont plus les bastides des Camanons du XVIIe, qui sont productives et de petite taille, mais des grandes propriétés marseillaises, au centre duquel on va avoir le dispositif bastidaire assez connu, bien étudié, et qui va faire de cette campagne quelque chose qui est utilisé un petit peu, je dirais, à la romaine, c'est-à-dire à la fois du point de vue hédoniste, du point de vue du plaisir, et à la fois du point de vue de la production, puisque Marseille aura longtemps un échange direct entre la production de la périphérie, production, j'entends, agricole, maraîchère même, et le centre de la ville. La ville n'aura pas, par exemple, les grandes halles qu'on peut trouver à Lyon ou à Paris, par exemple.
Alors, dans cette histoire marseillaise de la nature, ou dans cette histoire naturelle de Marseille, je ne sais pas dans quel sens on prend les choses, il y a une date qui est importante au XXe siècle, c'est l'hiver 56, qui a modifié l'état des espaces naturels à Marseille.
Tout à fait. C'est peut-être pas noté dans les tablettes, mais l'hiver 54 est connu à travers toute la France, à travers l'abbé Pierre, vous savez, le grand appel à la révolution de la bonté, disait-il. On est dans une époque de denrées rares, de travail, mais de gens qui vivent dans des tentes. Ça ressemble un peu aujourd'hui, du reste, qui vivent dans des tentes, qui travaillent quand même et qui, certains, dans cet hiver très, très rigoureux en France de 54, on va voir même des gens qui meurent sous des tentes. Marseille ne connaîtra pas l'hiver 54 directement, ce grand froid, mais l'hiver 56, un très, très grand froid, avec une partie de la mer, en tous les cas, les premiers mètres de la mer sous ses faibles épaisseurs qui va être gelée. L'ensemble des adductions d'eau des maisons qui avaient autrefois des caisses à eau, c'est-à-dire des espèces de tonneaux en zinc qui leur amenaient l'eau, même pas potable à l'époque, qui leur amenaient l'eau, donc, depuis le début du XXe siècle, va avoir ce circuit ne marchant plus et on va avoir un renouveau marseillais. Pour ce qui est des collines, on va avoir du grand gel, très très rare à Marseille. Généralement, on a des gels par grande période de Mistral, donc quelque chose de qui peut durer 6 jours ou 9 jours exceptionnellement, mais qui va rarement au-delà de ce temps-là. Là, on a eu une période longue, et donc on va avoir et pas que sur Marseille, sur toute la Provence, on a les grands gels des oliviers, la limite de l'olivier, qui est une limite écologique connue au niveau des territoires, va remonter, parce que les oliviers du Sud vont geler. Et seul, disait Molinier, qui a beaucoup étudié cette période, les arbres et les essences qui étaient installés sur les adrets dans les Alpes, c'est-à-dire la partie exposée au nord, donc la moins ensoleillée, des fois pas ensoleillée du tout l'hiver, va résister et va repartir sous d'autres formes. Pour Marseille, c'est l'entièreté des forêts qui existaient sur le système collinaire qui vont être affectées. Des arbres comme les pins qui sont assez fragiles, qui vont disparaître, déjà qui sont fragiles au vent, fragiles même dans leur durée de vie, et vont être beaucoup plus sujets aux incendies, qui va être l'épisode suivant, c'est-à-dire la disparition du couvert forestier sur les collines marseillaises, pour arriver vers un paysage qu'on connaît aujourd'hui, qui est un paysage dans lequel le rocher affleure, le rocher émerge. C'est ce paysage blanc et bleu, bleu du ciel ou de la mer, blanc du calcaire, d'un très beau calcaire, hein, d'une très belle qualité de blancheur même, qui aussi correspond au paysage moderne, c'est-à-dire aux mentalités modernes. On est dans les années 50, les années 60, c'est Saint-Tropez, on se met même son corps au soleil, on sait aujourd'hui que c'est hyper dangereux de se faire griller, là, d'être le toast. Et donc à cette époque-là, on est dans une image de la culture consommatoire et solaire à travers les vacances, à travers des choses comme ça. Et cet espace, je dirais presque brutalement désertique, ou en tous les cas qui évoque quelque chose de non naturel, enfin de naturel au sens que la trace de l'homme n'y serait pas du tout, c'est sur gros rochers, le ciel et la mer, auquel l'homme n'est même pas présent, est quelque chose qui, dans les mentalités, existe très fort. Je pense même que ça va dériver jusqu'aux années 90 vers ce goût du désert qui va être très, très développé. C'est-à-dire que là, il n'y a carrément plus les hommes, c'est l'endroit sans relation, je dirais. Et donc ce paysage même, il a été peint. Il a été peint entre les peintres qui étaient entre l'abstrait et le régionalisme, vont peindre des paysages gris avec des oliviers noueux, des arbres morts, des choses comme ça. Il y a une espèce de métaphysique de ce paysage qui est goûtée à l'époque.
Mais donc les calanques et les collines autour de Marseille sont plus désertiques que ce qu'elles étaient avant 56, et il n'y a jamais eu de projet de reforestation de ces espaces-là ?
Alors, effectivement, les calanques vont voir disparaître une partie importante de leur couvert végétal, puisqu'il existe encore, puisqu'il va y avoir encore d'autres incendies plus tard, il y a des incendies un peu récents même. Pour donner une image, lorsqu'on partait des Goudes, on pouvait rejoindre Sormiou sous les arbres, dans les forêts. Il restait même une forêt dont le nom est encore en place, qui s'appelle la forêt de la Valkyrie, pour montrer un petit peu le goût des Marseillais sur le monumental. Et cette forêt n'existe plus du tout, mais on pouvait marcher à couvert pendant plusieurs kilomètres le long de cette côte, et c'était exceptionnel, c'était quelque chose de tout à fait magnifique. Les projets de replantation sur les calanques elles-mêmes, j'en ai jamais entendu parler. Il faut penser que les calanques ont une face qui est tout à fait vers le sud, donc là, qui est la face exposés aux embruns dans lesquels les paysages ont de la difficulté. On a même des systèmes écologiques de petites plantes de bord de mer qui vont jusqu'au début de véritables bonsaïs, c'est-à-dire d'arbres qui deviennent très petits, qui se baissent dû aux effets du vent. Par contre, j'avais vu un projet, pas si utopique que ça, pour avoir été exposé dans des lieux de foire internationale de l'immobilier, qui prenait les îles du Frioul et essayait d'en faire un lieu de villégiature pour en faire un site comme Monaco dédié aux upper classes internationales, avec lien direct en hélicoptère avec la... avec Marignane. Et cette transformation ne pouvait se faire que si on revégétalisait les plantes. Et là, il y avait un paysagiste qui, je crois, était belge ou allemand, qui avait travaillé en Israël et qui savait pomper le sable de la mer, le mélanger avec d'autres choses, de façon à revégétaliser les sols qui sont, lorsqu'ils sont à cru et à nu, comme sur les rochers, peuvent rien avoir d'autre que des arbres d'ombre, des arbres de creux, des arbres de même des végétations, des micro-végétations qui ne peuvent pas se développer vraiment. Mais de grands projets sur les sites marseillais, si, toute la partie nord, effectivement, il y a eu des replantations. Il y a eu toutes les fêtes de l'arbre dans les années 70, les gens des enfants des écoles, etc. Il y avait toute une culture pédagogique très tiers-mondiste, presque, je dirais, qui consistait à, lorsqu'un arbre plantait un... On pensait que si un enfant plantait un arbre, et non un arbre plantait un enfant, mais ça peut être ça, cet enfant aurait le respect des arbres. On fait ça dans les cités, vous savez, on essaye d'apprendre aux enfants le respect du jardin qu'a mis le logeur, jardin généralement assez terrible. Et si c'est eux qui vont planter le jardin du logeur, on pense qu'ils en auront plus de respect, mais non, je crois que c'est autre chose. Mais donc à cette époque-là, on a replanté de façon régulière, mais on a beaucoup replanté un peu partout, hein, faut quand même le penser. Mais ces arbres ne sont jamais venus à maturité, ils ont été incendiés. Il y a un grand incendie des années 92 ou 95 qui a duré plusieurs jours, plusieurs nuits sur toute la région nord de Marseille, qui était une région encore végétalisée. Et vous savez qu'en écologie, par exemple, on dit, en écologie végétale, on dit que par exemple le ciste cotonneux est une plante, vous voyez, c'est cette petite fleur rose au printemps, assez basse, avec des feuilles velues, est une plante qui pousse après les incendies. Et en termes de sociologie végétale, parce que ça existe, c'est-à-dire comment se déplace, derrière quoi et qui colonise, qui bouge dans ces sociétés, dans ces mondes, on peut même dire que l'arrivée de cette plante est provocatrice de l'incendie. On ne sait pas si c'est l'incendie qui les fait venir ou bien si c'est elles-mêmes, dans leur colonisation successive, qui permettent les incendies. Parce qu'elles ont plus d'essence, plus de choses comme ça.
Alors Thierry Durousseau, ces risques sont liés à la présence importante des éléments naturels sur la ville. Vous avez une jolie expression, vous dites que à Marseille, on a un site qui est trop grand pour la ville.
Pour donner une image assez forte, puisque Marseille est d'origine grecque, le système des cités-états grecques, dont faisait partie Marseille, avait non seulement la ville liée au cynocéisme, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs villages, donc d'un territoire avec un lieu unique pour le culte et le pouvoir, avait ce qu'on appelait la Cora, c'est-à-dire ce territoire de l'ensemble du lien des villes et des villages qui, ensemble, faisaient un contrat. Donc cette Cora était à la fois un espace de défense. Et la Cora marseillaise, la Corsa Ramassaiote, c'est l'ensemble justement de ces collines. Ça va même plus loin à certains endroits, parce que ça suit des cheminements, des choses comme ça. Mais donc c'est là qu'on avait, je dirais, les sonnettes d'alarme pour ne pas être envahi, pour avertir des dangers successifs. Et là, donc, on avait tout le bassin, toute la cuvette marseillaise qui était quelque chose de cultivé par rapport au centre qui était plutôt dense et regroupé. Donc, on était largement au centre de la cuvette marseillaise. Et là, on avait vraiment un territoire très grand pour l'unité urbaine. Des temps plus rapprochés, on va avoir une ville très concentrée de Marseille, une ville de travail. Je pense au port, avec la construction portuaire du 17e, des fabriques de canons, une véritable économie de l'entrepôt. Là, on va avoir un terroir qui fournit à la ville sa nourriture, ce qui est tout à fait naturel. Dès le XVIIe siècle, on n'a plus de fortifications, on a des limites aux villes, parce qu'il y a des octrois et qu'on paye des droits. Donc, c'est des limites plutôt commerciales. Et il faut attendre le 19e siècle brutal, c'est-à-dire le Second Empire, à Marseille, la percée impériale, la percée de la rue de la République aujourd'hui, qui était la rue impériale et de la rue Colbert un petit peu plus tard, pour voir déplacer une centaine de milliers d'habitants de la ville. C'était des villes très denses, très suroccupées dans leur établissement humain, et qui vont nourrir les villages, les fameux 101 villages marseillais, pour en faire des nouveaux lieux de socialité, des nouveaux lieux d'activité. C'est là qu'il va y avoir des retours du catholicisme, par exemple. Ces villages ont des églises, alors que la Révolution sera très démolisseuse du système religieux marseillais. C'est là aussi qu'il y aura le cercle laïque, donc anti-religieux, qui sera à cet endroit-là. C'est là que dans les années 20 se développe le cinéma de quartier, qui fait que tout le monde ira au cinéma. Ce sera vraiment quelque chose de très populaire. Et donc là, on va avoir une croissance de l'occupation de ces terrains. Et ce n'est que dans la grande époque de l'après-guerre et de la Reconstruction où ces grandes propriétés foncières autour des villages vont servir à mettre des grands ensembles, des ensembles de 800 logements, de 1000 logements pour certains, d'abord dans la plaine et pour certains d'entre eux dans les quartiers plus spéculatifs, le piémont des collines marseillaises vont commencer à être occupés. Le grand exemple, c'est le Rouvière, l'ensemble Rouvière et Valmonte, un petit peu plus bas. Donc, ces territoires vont être urbanisés de façon extrêmement dense par l'entreprise Cravero, vont faire ces bâtiments qui, aujourd'hui, dépassent même le profil des collines. Quand on vient de Cassis, on voit tout d'un coup un épaulement rocheux sur lequel on a une autre épaule, celle d'un angle de bâtiment. Et donc, sur ces terrains qui allaient dans les collines, il était possible de construire, mais en faisant les constructions en pied de colline seulement. C'est quelque chose d'assez logique, qu'on retrouve dans d'autres sites de Marseille. C'était le grand règlement de 49 qui avait autorisé ce type. C'était la classe S, même, précisément. Et Cravero, assez malin, va commencer à faire une première tranche qui va être en pied de colline, effectivement, là où il y a la tour et quelques barres. Puis, il va décomposer en deux parcelles son terrain, et il va refaire la même chose sur ce qui reste derrière, d'où cette énorme construction, cet énorme ensemble qui est même un des rares ensembles de ce qu'on appelle en architecture une prise de site, c'est-à-dire la construction joue à l'échelle du site. C'est un des rares endroits de Marseille où la construction ne déstabilise pas le site, mais joue à même échelle, hein, à même valeur que les contreforts de la chaîne de Saint-Cyr. Et donc là, on est déjà arrivé à une occupation de la cuvette marseillaise qui est déjà relativement importante. I don't need no speed of weed to groom me, no. Times I may seem all alone, but I don't want nobody to bother me, a world of my own. Only one I'm thinking.
Thierry Durousseau, donc on l'a dit, Marseille se situe dans un site exceptionnel par sa beauté, ses dimensions, etc. Est-ce qu'on pourrait aller un peu dans l'autre sens et voir en quoi le site a créé des contraintes pour la ville qui ont déterminé les formes que l'espace urbain a pris ?
Oui, tout à fait. On a commencé par le premier établissement de la ville antique. On est sur un penchant, comme on dit, une pente qui descend des accoules jusqu'au port, lequel port était sablonneux. De l'autre côté, on avait des marais. Et quand les archéologues fouillent sur l'état primitif des établissements humains, on voit que sur ces pentes, la première chose que font les gens, ils ne font pas des rues, ils font des rigoles pour que l'eau qui dévale ces pentes, on les connaît bien encore, on a encore des fois par grande pluie à Marseille de l'eau qui descend vers le centre-ville, ce qui noie le port, qui l'inonde. Donc des rigoles qui permettent d'isoler les plateformes bâties où il y a des maisons, même fut-elle très simple. Donc on va commencer par diriger dans des rigoles cette eau de façon à ce qu'elles épargnent l'endroit où il y a des habitations. Et on retrouve comme ça dans le fond archéologique de la ville la gestion de ces pentes et de toute la difficulté que ces pentes amènent, c'est-à-dire des canalisations d'eau, des ravines et tous ces éléments-là. À une échelle plus tardive, notamment je pense à l'époque classique où Marseille est l'objet de beaucoup de compositions urbaines, compositions dans le sens classique de grandes géométries, de grandes longueurs, de grands alignements, de grands tracés à l'échelle de la ville, qui sont petits à l'échelle du site de Marseille, mais grands à l'échelle de la ville, qui est relativement jusqu'au 19e siècle assez restreinte dans son emprise. Donc ces grands tracés harmonieux, je dirais, vont pas être exécutés parce qu'elles butent sur des pentes, sur des biais, sur des dérochements, sur des endroits où on ne peut pas passer. Et l'usage ou les pratiques vont amener à plutôt utiliser des petits chemins qui serpentent ou qui sont en biais par rapport aux lignes de plus grandes pentes, des chemins plus naturels en tous les cas. Je prends comme exemple d'une part le fait que la porte d'Aix, qui se trouve sur un site assez complexe, un site qu'on appelle en encellement comme une selle de cheval, c'est-à-dire qu'on a deux pentes nord et sud et on a deux pentes qui sont est-ouest, celle qui vient de la gare et celle qui va descendre notre boulevard des Dames. Donc c'est un site qui n'a pas beaucoup d'assises. Il suffit de voir les projets actuels pour voir la difficulté qu'ils ont à se poser là-dessus. Et on n'aura jamais de continuité du cours Belzunce, grand axe du XVIIe siècle, la rue qui remonte jusqu'à la porte d'Aix. Et derrière, on n'arrivera pas bien à gérer les choses. Ça ne sera jamais quelque chose de très organisé, même si après, il y aura des tracés au 19e plus violents, enfin, qui composent avec de façon plus violente avec la pente. Et on a à Marseille cette présence permanente de sites, je dirais, quasi inconstructibles. Vous allez autour du Vallon des Eaux, je pense que tout le monde voudrait habiter là, même si c'est des petites maisons, et on voit émerger un gros rocher. Ce gros rocher n'est pas constructible. Ce gros rocher reste un gros rocher à l'intérieur du tissu urbain et reste toujours une espèce de vacuité tout à fait intéressante, puisqu'elle donne tout d'un coup une autre dimension. On a même très souvent à Marseille des adossements sur des pentes rocheuses très raides qui ont été taillés, notamment des bâtiments récents, des bâtiments des années de la deuxième partie du XXe siècle, qui vont presque à toucher l'enrochement derrière et qui donnent ces espaces très effilés et très, qui peuvent même paraître très durs, puisqu'on n'a pas de prospect, on n'a pas de vue lointaine. Par contre, en général, sur l'autre face du bâtiment, ben, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la mer. On voit les grandes choses élargies. On a, juste dans des sites assez relativement connus, je pense à une des plus grands groupes d'habitation marseillais qui est Frévalon, une espèce de cité star qui est toujours nommée en bien ou en mal sur Marseille. Et on voit là qu'il y a une des deux grandes barres. On a trois belles tours, une première partie de plan masse qui est très composée à l'ancienne. Et puis après, on est après 62, il faut loger. Donc on densifie, on fait des bâtons rompus. Mais dans cette première partie, on a deux longues barres qui suivent un terrain qui était autrefois sur lequel il y avait un ruisseau assez haut, le terrain des Durbecs. Et on a une des barres qui déchausse de quatre étages pour retrouver le sol où on circule. Et donc on a une espèce de locomotive, je dirais. Vous savez, c'est les locomotives qui descendent, qui sont très hautes et qui descendent très bas et qui donnent une espèce d'image très dynamique de la perspective. Et on a ça très, très, très souvent. Le terrain lui-même est un terrain étrange à Marseille. Hein. On a des marais, toute la partie haussmannienne est sur des pieux de bois, comme à Venise, parce qu'on est construit sur des marécages, quelque chose qui n'est pas porteur du tout. Donc il faut descendre une dizaine de mètres, ce qui n'est pas très profond, pour trouver des sols importants. Et puis, on a nos carrières, c'est-à-dire ce qui a fait Marseille réellement. On a donc quelque chose qui va marcher jusqu'au 19e siècle, à commencer par la ville grecque, bien sûr. La christianisation de Marseille passe par ce qui est aujourd'hui le site de l'abbaye Saint-Victor, le Dormidou, etc., où on va avoir les premiers sarcophages chrétiens de toute l'Europe. Je veux bien le dire, Marseille a toujours quelque chose du livre des records à dire. Donc on va construire ces premiers sarcophages parce qu'on est sur une ancienne carrière donc, qui est construite en escalier, enfin qui est creusée en escalier, puisque pour extraire les bancs de pierre, il y a des méthodes tout à fait précises. Et dans ces escaliers, c'est là, dans ces carrières, qu'il va y avoir la première réunion des chrétiens, des assemblées chrétiennes. Et c'est là qu'on va ensevelir selon le rite chrétien. Et c'est là, donc après, on va avoir la construction de l'abbaye, qui était une abbaye isolée, hein, qui est une abbaye isolée de la ville, elle est en face de la ville. Autre pierre, la pierre du XVIIe et XVIIIe siècle, je veux dire que la pierre...
Alors, juste avant cette pierre-là, donc la pierre de la carrière de Saint-Victor, en dessous de Saint-Victor, a permis de construire la ville grecque, c'est ça ?
La ville grecque, c'est ça, d'accord. Oui. Ses palais, ses temples, ses constructions de rang aussi, oui, bien sûr.
D'accord.
Ses fortifications. On a une autre pierre qui est la pierre dite de couronne, qui est le cap, simplement le cap de lance de Marseille, cette lance dont Apollinaire disait que c'était un arc d'amour. Si on regarde bien son dessin, on a deux formes comme ça. Donc au bout, on a le cap couronne, et là, on a des calcaires de très très bonne qualité. Et cette pierre va être amenée en bateau à Marseille et on va construire à peu près tout le XVIIe et XVIIIe siècle, même un peu le XIXe. Et on reconnaît les datations de ces constructions quand on observe assez précisément en fonction de la couleur des bancs, c'est-à-dire des zones de la carrière qui est exploitée. C'est-à-dire qu'on l'exploite d'abord au-dessus, puis après en dessous, bien sûr. Et on va d'une couleur jaune, un peu safranée, jusqu'à des couleurs rosées qui sont, par exemple, toutes les forts de Marseille sont dans une couleur rosée, là, qui prennent au soleil couchant des couleurs presque dorées, là, magnifiques. et qui est encore une autre époque de construction. Pour le 19e siècle, on ira chercher la pierre d'Arles. Donc, il y a une pierre, puisque le 19e siècle va construire énormément, va multiplier la ville. Hein. Et donc là, on va chercher une pierre d'Arles qui descend par le Rhône, puis qui descend par la mer et qui vient à Marseille. Pierre qui a très bien tenu par endroit et qui est un peu moins par ailleurs.
La pierre du Fort Saint-Jean, donc la pierre rose dont vous parliez tout à l'heure, vient donc d'une carrière marseillaise.
Oui, du Cap Couronne. Du Cap Couronne, tout à fait.
Voilà. D'accord.
Cette pierre est même aujourd'hui utilisée pour faire de la chimie. C'est une pierre, un calcaire très très pur et qui permet de faire de la chimie très, très avancée là-dessus. Hein.
Et alors la carrière la plus visible sans doute dans le paysage urbain, celle qui est l'espèce de décrochage ou de décolleté comme vous disiez, à côté de Notre-Dame-de-la-Garde, qu'on voit bien depuis le boulevard Baille, dans l'axe du boulevard Baille, cette carrière-là a servi à construire quel type de bâtiment à Marseille? Il date de quand?
Alors c'est à l'échelle d'une carrière urbaine, c'est une petite carrière, c'est-à-dire qu'effectivement elle décrit un dessin, c'est une espèce de fracture économique, c'est-à-dire on a fait ce creux pour construire, c'est-à-dire... comme on dit, scier la branche sur laquelle on est assis, creuser la carrière sur laquelle on habite. Donc là, cette carrière-là a construit des bâtiments du 19e assez ordinaires de rang. Il faut savoir que c'était pas de cette pierre-là, on n'a pas extrait des pierres d'appareil, c'est-à-dire des pierres régulières qui sont posées elles-mêmes en lit, superposées pour faire des murs réguliers, d'appareillage régulier. Beaucoup de maisons sont faites de blocages, c'est-à-dire de gros blocs de rochers irréguliers, devant lesquels on fait soit des enduits, soit des parements décorés, du reste. Et donc cette pierre-là a irrigué un petit peu tout le quartier Paradis, mais pas la partie du 19e, plutôt la partie plus ancienne, 18e, ce qui est aujourd'hui Puget, ce qui est aujourd'hui le nord du port, le sud du port, pardon, du vieux port.
Alors un des autres éléments absolument déterminants et essentiels, on finit par celui-là, mais c'est par là qu'il aurait fallu commencer, donc un des autres éléments essentiels du site, de l'impact du site sur la forme et les structures de la ville, c'est bien sûr la façade littorale, la mer. Donc effectivement, le fait que Marseille soit étalée le long d'une façade littorale, lui pose plein de problèmes, comme par exemple celui des transports et du fait de contourner la ville. Alors,
ah oui, ça c'est une belle histoire, puisque c'est là on touche à l'imaginaire marseillais, à savoir que dès le XVIIIe siècle, on s'est posé la question des monuments marseillais. Comment cette ville aussi ancienne n'avait pas autant de monuments que Rome? Or, elle voulait être l'égale de Rome, c'est évident, elle est même contemporaine. Et donc, les historiens, parmi les plus raisonnables, je dirais, ont imaginé une disparition d'une partie de la ville sous l'eau. Et effectivement, on trouve de l'archéologie sous l'eau, mais des bateaux plutôt. Et donc, il y a un imaginaire qui laisse à penser que la ville aurait été une ville de terre, donc une ville plutôt radio-concentrique avec un centre, des périphéries circulaires autour et puis des axes de développement le long des voies de communication. En fait, on est là sur une ville tout à fait étrange. D'une part, c'est une ville du sud qui s'ouvre sur la mer à l'ouest, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes éclairages que les villes italiennes. Si vous connaissez les peintures de Claude Gelée dit le Lorrain, c'est ces peintures italianisantes avec les soleils couchants et qui donnent sur un petit port étroit le long duquel sont des constructions presque en escalier les unes sur les autres, c'est le port de Marseille. On retrouve ça chez Vernet, on retrouve ça dans toute l'iconographie du XVIIIe siècle. On a une exposition tout à fait particulière. Cette mer qui va donc creuser la côte, qui est plate à certains endroits, au contraire très rocheuse à d'autres, donc assez relativement tourmentée, cette mer va dessiner cette limite qu'on va toujours essayer de franchir, et il va falloir attendre finalement la deuxième partie du 20e siècle pour faire cette chose qu'on ne referait pas aujourd'hui, c'est-à-dire mettre une autoroute au bord de la mer. C'est-à-dire quelque chose qui est assez empêchant quand même, malgré tout, et dans lequel il faut faire énormément de dispositifs pour ralentir les voitures, mais qui donne une vue dont parle René Alliot, entre autres choses, qui parle des nœuds d'autoroute, lorsqu'on sort d'une autoroute et qu'on décrit ces grands virages, qui sont des grands panoramiques cinématographiques, de même que des grands éléments linéaires qui sont des travelling. Il y a cette vue tout à fait dynamique au sens du cinéma. Le cinéma nous a appris à voir certain nombre de choses. Je voyais encore, il y a peu de temps, là, ce grand panégyrique monumental de Marseille qui a été fait sur FR3, et où les plus belles choses sont les vues d'hélicoptères, sont des vues dynamiques, on est sur des choses inouïes, je dirais, si c'est non vu par ailleurs. Et donc cette mer, elle donne cette dimension dangereuse pour les marins, mais tout à fait intéressante pour les gens de la Terre. C'est-à-dire cette ouverture, on avait des chemins qu'on appelait les chemins du Miradou à travers le panier, qui permettaient d'accompagner le départ des bateaux à pied et les voir de façon ultime. Donc vous voyez, il y avait des pratiques à l'un des chemins intérieurs de la rue, de la ville, qui n'étaient pas des chemins simplement d'usage, mais simplement pour dire au revoir, par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez beau.
Alors la présence de la mer, qui fait donc de Marseille une ville en demi-cercle, fait donc de son contournement un grand problème, et c'est le fameux projet de la L2, qui donc est en cours depuis des années, puisque sur le plan Grébert dont vous parliez tout à l'heure, il en était déjà question, c'est ça ?
Tout à fait. Grébert est un des successeurs des grands paysagistes américains. Il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé au Canada, et il utilise ce que les Américains appellent le Parkway. Le Parkway, c'est pas une autoroute exactement. L'autoroute est quelque chose plutôt qui vient d'Europe, plutôt en Italie, en Allemagne dans les années 30, uniquement dédié aux voitures. Le Parkway ressemble un petit peu à ces rues qu'on a dans les films muets américains, y compris dans les Charlots, par exemple, où on a une voie qui est pas régulière, qui est assez douce en général, avec des sinuosités, le long duquel on a un peu d'herbe, des arbres assez hauts, mais pas alignés, et derrière encore des dalles de chemin piéton, et puis derrière encore un peu d'herbe, et puis les maisons. Donc quelque chose d'assez vaste. Donc il rêve d'espace comme ça, et il va organiser pour la première fois la ville selon un dispositif routier moderne, c'est-à-dire il imagine vers le nord, donc je dirais vers la France, vers le nord des autoroutes, et vers l'est aussi des autoroutes. Donc on est dans du système directionnel, et naturellement ces autoroutes demandent un maillage qui évite la ville, ce qu'on appelle les rocades qui tournent. Donc
on est dans les années 30, hein, c'est
on
ça
On est dans les
Donc
années
30. Donc c'est prospectif, parce que la ville n'est pas aussi étalée qu'aujourd'hui.
Tout à fait, la ville est encore dans son corps du 19e siècle, hein. Elle n'a pas bougé beaucoup. Et donc, il va imaginer ces axes de développement, il va même composer avec ces axes de développement, et il va même, dès les années 30, demander à ce qu'on achète les terrains, que l'État achète les terrains, puisqu'à l'époque, c'est l'État qui fait les grandes voies autres que municipales, achète ces terrains, on va avoir des plateformes séquentielles, puisqu'on n'achète pas tout partout, et on est en train de terminer aujourd'hui ce qu'on appelle la L2, c'est-à-dire quelque chose qui commence à contourner la ville. Et ce contournement, du reste, épouse plus ou moins, mais à l'intérieur de la ville, une première rocade qui est ce qu'on a appelé la couverture du Jarret, qui a eu aussi beaucoup de difficultés à se faire, qui fonctionne aujourd'hui comme un très difficile boulevard extérieur moderne, on dirait un petit périphérique, qui a généré beaucoup de nuisances pour l'habitat. Donc l'habitat s'est un peu refoulé. Là, c'est jamais devenu un espace très, très convivial. C'est toujours un espace un peu raide, un peu dur, là. Mais qui a mis une quinzaine d'années à être fait. Pourtant, les terrains étaient là, mais il y avait des systèmes de propriété, des systèmes de... On n'est pas arrivé à donner un tracé très régulier là-dessus, hein. C'est rare qu'une ville comme Marseille n'ait pas déjà de véritables rocades. Et c'est rare qu'aujourd'hui, on réinvestisse dans les rocades, parce qu'on sait que c'est aussi quelque chose qui a tendance à amener les voitures. Il faut dire qu'à Marseille, on fait des parkings, ça amène aussi des voitures dans le centre.
Alors même si Marseille n'est pas un modèle absolu dans le domaine de la gestion écologique, Defer s'était quand même intéressé au thème de l'environnement au moment de son émergence en France dans les années 60-70. Il avait mené une politique dans ce sens-là, autour des parcs et jardins en particulier.
Effectivement, malgré la présence de la mer, malgré la présence des collines, Marseille n'aura pas été une ville verte, la Marseille moderne. En cela, elle est méditerranéenne, ça c'est sûr et certain. Et donc Gaston Defer a voulu, entre autres choses, voyant que son implication dans la forte construction des années 60 n'était pas forcément, même électoralement, là, ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc Gaston Defer a essayé d'investir ce qu'on appelait à l'époque l'environnement. C'était le premier nom de l'écologie sous sa forme la plus civile, je dirais, ou la plus politique. Et donc, il y avait déjà eu des expériences, je pense à Royan, je pense à Dijon, par exemple, qui donc avait de véritables politiques en la matière. Et donc, Gaston Defer, un grand parlementaire, va développer son service qu'on appelle Parc Jardin, qui existait, mais de façon un petit peu limitée à l'époque, et va essayer de créer des parcs. Alors, plutôt que de créer des parcs, et sans vouloir en faire l'histoire pure et simple, il va rendre au public de grands parcs privés qui étaient un certain nombre de bastides de grandes familles marseillaises, que ce soit dans le nord où l'urbanisation s'était beaucoup développée, ou bien dans le sud où tous ces terrains étaient enclos, vous savez, de ces hauts murs marseillais qui suivent les pentes, là, et qui vont permettre, qui dans la ZUP numéro 1, horrible nom, mais qui est un quartier de Marseille aujourd'hui, ouvre Font Obscure, qui un peu plus loin va rendre accessibles les jardins de la famille Durand-Gasselin, la famille Saint-Louis, des sucreries Saint-Louis, très beau jardin du 19e avec des acclimatations, avec la présence du train, comme on peut le trouver dans les jardins parisiens, où le train devient un des éléments du jardin. Donc un certain nombre de jardins comme ça marseillais vont être rendus au public. Effectivement, les autres espaces qui étaient les espaces d'excursion, ces fameux excursionnistes marseillais qui sont une institution, même une espèce de contre-pouvoir, je sais, si ce n'est pas l'équivalent de CIQ, vont eux dire qu'à la fois les grandes promenades à l'extérieur de Marseille sont populaires, parce que ce n'est pas forcément des gens qui font partie des classes dominantes, mais ça n'est pas non plus les classes populaires qui vont se promener forcément dans le massif des Calanques, par exemple, ou qui vont faire de l'escalade l'hiver sur le pas de la Lune du côté des Goudes. Donc c'est déjà un tourisme tout à fait particulier, donc qui a sa tradition dans les auberges de jeunesse, qui vient des années 36 et qui est un peu militante, faut bien le dire. Donc, on va réouvrir ces terrains, des terrains urbains, donc proches de l'urbanisation, aux Marseillais. Il va devenir suffisamment grand pour qu'on se pose la question technique et scientifique à la fois de l'évolution des espèces, et notamment cette fameuse maladie du platane. Dans l'histoire, je dirais, de la sociologie des végétaux, ou dans cette sociologie des végétaux, on a eu comme ça des passages d'espèces qui sont venues. Le platane n'est pas européen, le platane vient de Syrie, donc il vient plutôt d'Asie mineure et du Moyen-Orient. Il commence à être importé par les Romains, mais en France, il a un grand développement sous Louis XIV, c'est l'arbre par essence, pour ne pas faire de jeu de mots, et qui va se développer un petit peu partout en France. Dans le Midi, il va se développer phénoménalement. Et ce pauvre arbre va... D'abord, cet arbre va remplacer l'orme, qui est un arbre qui, lui, vient de Russie, au contraire, et qui, peu à peu, va remonter vers l'Europe du Nord. Il est quasiment plus présent, sauf dans quelques vestiges d'écotopes ou d'écohabitats du côté de Saint-Pierre, à côté de Martigues, où on retrouve des organisations très anciennes. Et donc le platane lui-même va être atteint d'une maladie qui va lui être transmise pour l'essentiel de bois qui constituait les caisses du débarquement américain pour la libération de la France, de l'Europe entière en réalité, et qui va contaminer ces espèces. Et on va faire des recherches à Marseille pour essayer de soigner les arbres eux-mêmes. Donc ça veut dire que c'est devenu non seulement un gestionnaire d'espaces importants, que c'est même si les jardins sont les nouveaux jardins sont pas d'une très très grande qualité, c'est très récemment qu'en France qu'on s'intéresse au fait que les paysagistes peuvent faire des jardins urbains, on s'y intéressait autrefois. Longchamp est un grand jardin, le jardin Puget est un magnifique jardin néoclassique qui est très rare d'avoir dans les villes méditerranéennes. On avait des très bons dessins. Par contre, il y a eu toute une période où on a vécu sur l'acquis des jardins parisiens et leur gestion. Et on a réinventé que très récemment. Et donc aujourd'hui, effectivement, Marseille va se couvrir vraisemblablement de jardins modernes tout à fait intéressants. Et donc ce service est devenu un service important pour la ville, et il visait un certain nombre de mètres carrés de jardin par habitant. C'était les visions statistiques de l'époque, hein. Faut se souvenir qu'on se donnait des objectifs là-dessus. Mais on a eu effectivement toute une tradition de promenade particulière. Par exemple, je ne sais pas s'il est très accessible aujourd'hui, mais le jardin le long de la corniche, qui s'appelle
Valmer,
voilà, est un très beau jardin de rocaille. Il est comparable au jardin de rocaille qu'on peut trouver du côté de la Côte d'Azur, avec des espèces différentes. C'est des très jolis lieux, hein. C'est vraiment des belles qualités de jardin.
Alors Thierry Durosseau, vous qui êtes architecte conseil au sein de l'Atelier du patrimoine, donc pour la ville de Marseille depuis maintenant 25 ans à peu près, quel regard vous portez sur l'avenir de la ville à Marseille, l'avenir de l'urbanisation? Où est-ce que vous voyez des menaces, des dangers ou des ressources, des possibilités? Comment est-ce que vous imaginez ça?
Alors Marseille fait une mue là en ce moment, ça c'est sûr et certain. Du point de vue des paysages, parce que je pense que les paysages urbains comptent aussi, on a des dimensions très variables. D'abord, Marseille en tant que ville constituée, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le centre de Marseille, est en train de progresser. C'est-à-dire que les parties qui étaient liées à l'économie portuaire, ces territoires qui étaient très mouvants au fur et à mesure de l'évolution des commerces, des productions, des échanges, est en train de se reconstruire sur elle-même en termes d'un quartier qu'on appelle de l'horrible nom Euro-Méditerranée, mais qui va devenir des noms de quartiers et des noms de rues. Certains existent déjà. Et là, effectivement, on assiste à une espèce d'européanisation de Marseille via le tertiaire, c'est-à-dire les bureaux, et via la résidence à travers des logements qui se veulent affectés aux gens qui travaillent sur place, donc cadres même simplement employés de sociétés, et qui, malgré tout, est en train aussi de gommer tout le signe du travail usinier, j'entends, du travail, quand je dirais peu qualifié, c'est-à-dire que c'est l'emballage, c'est tout ce qui est lié à l'économie portuaire, c'est l'échange. On a de fait, par exemple, des échanges avec le Maghreb qui ont été beaucoup ralentis depuis les années 90, mais qui permettaient à quelqu'un de commander un frigo, une voiture, un certain nombre de choses sur Marseille, et de faire de Marseille un lieu, de continuer un effet d'échange. Toutes ces choses-là commencent à disparaître, sont gommées pour une ville, je dirais, sur le modèle européen au sens costume trois pièces, quoi, au sens de quelqu'un de très très civilisé, je dirais.
Tertiaire donc.
Tertiarisé, voilà, un monde tertiarisé. Mais bon, cette mue doit se faire et sans doute l'enjeu, c'est d'essayer de réussir de ce que n'avait pas réussi la rue de la République, c'est-à-dire faire un quartier de la ville au nord du port qui soit un quartier classe moyenne ou classe bourgeoise, on disait à l'époque, et qui a été un échec. Il faut bien le dire, la rue de la République a fini par être habitée par une classe laborieuse, des gens même un peu dans la difficulté sur ce secteur. Donc ça, c'est une transformation de la ville qui est totalement légitime et sur laquelle il se passera ce qui se passera. Par contre, ce qu'on voit assez nettement arriver, c'est que tout ce que les années 60 n'avaient pas urbanisé à l'époque des grands ensembles, des paquets de 400, de 800 logements sur des grands terrains de Bastille du 19e ou même antérieur. Les nouveaux terrains vont, les nouvelles constructions sont en train de coloniser de nouvelles bastides qui sans doute auraient pu être les nouveaux réservoirs ou les nouveaux jardins ou les nouveaux espaces verts, pour parler très simplement et humblement, qui fassent fonctionner une véritable écologie urbaine, parce que cette nécessité n'est plus à démontrer, que la ville n'est pas faite que d'une continuité bâtie, elle est aussi faite d'images de la nature, ou bien de réel, et que cette image de la nature que sont les jardins est constituée du même matériau que la nature réelle, même si elle est transformée. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui échappe à une pensée, je dirais, verte ou écologique de la ville. C'est-à-dire qu'il faut, éviter d'avoir que du bâti et effectivement la petite production privée va vers assez brutalement occuper le terrain. C'est le profit et son moteur. Et la dernière chose, c'est que sur le site marseillais, les sites qui sont, je dirais, urbains par nature, c'est-à-dire les versants sud des collines nord de Marseille, ça paraît paradoxal, mais c'est bien ça, donc qui sont très bien exposés, à l'abri du vent. Il y a eu beaucoup de tentatives d'urbaniser ce secteur. Il y a une petite urbanisation de pavillons qui se densifie, qui n'est pas très élégante, mais qui est très marseillaise. Ce monde, comme disait René Alliot, des petits maçons qui font leur maison à partir d'un cabanon. Là, je pense qu'il y a sans doute de la tension et sans doute une attention des gros bâtisseurs et des majors de la promotion immobilière pour récupérer ces sites. Et s'il n'est pas pensé à l'échelle de la ville de l'usage de ces terrains, leur accessibilité à tous, puisque c'est la colline, leur mode d'urbanisation dur ou doux. Je pense que, par exemple, un ensemble comme ce qu'on a appelé le Roi d'Espagne est sans doute un des modèles de faible densité qui a réussi à maintenir des pinèdes, qui sont des écotopes extrêmement fragiles à l'urbanisation. C'est effectivement l'entretien de la pinède comme un jardin et non plus que comme une forêt qui fait que ça a pu se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il y a sans doute là quelque chose à creuser, et ça serait assez grave qu'on n'ait pas la plus parfaite des urbanisations et donc la plus consciente de son écologie sur ces secteurs-là.
Thierry Durosseau, merci. Prochaine émission de Ville Nature, samedi prochain, 13h10. On ira en compagnie de Denise Bélan et Fabrice Hochet du GIP Calanques, dans les Calanques, donc à partir de Calongue, pour une promenade dédiée à la botanique la prochaine fois.
C'était Ville Nature, une série d'émissions consacrées à l'écologie à Marseille. Durant tout l'été, du 5 août au 9 septembre. Prochaine promenade, samedi 13h10, et rediffusion tous les mardis à 10h.